Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes en partenariat avec BFM. Quid Juris, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Elsa Franz et Camille Sarrazin. Vous écoutez et vous regardez le 100e épisode de Quid Juris. Centième numéro de Quid Juris que vous pouvez désormais écouter et regarder, et pour l'occasion, un invité exceptionnel dont la parole est rare, car l'actualité de la semaine, c'est l'ouverture ce lundi 16 mars du procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement présumé par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. C'est bientôt le procès de Rachida Dati en septembre prochain. C'est aussi l'affaire Jack Lang, et le point commun entre toutes ces affaires, c'est le parquet national financier qui est à la manœuvre. Bonjour Pascal Prache.
Bonjour Laurent Neumann.
Vous êtes justement le procureur du PNF, le parquet national financier, poste auquel vous avez succédé à Jean-François Bonner, c'était le 5 janvier dernier. Vous étiez auparavant directeur des services judiciaires. Je vous avais reçu d'ailleurs dans Quid Juris lorsque vous étiez procureur de Nanterre, chargé entre autres du pôle Cold Case, l'unité chargée des crimes non élucidés. Et avant vous, ici même, j'ai eu le plaisir de recevoir Olivier Christel, le procureur du parquet national antiterroriste, et Vanessa Perret, la procureure du parquet national anticriminalité organisée. Vous êtes donc le troisième procureur d'un parquet dédié à venir au micro de Quid Juris. Merci d'avoir accepté l'invitation du Club des Juristes. Avant de parler d'actualité, et Dieu sait s'il y a beaucoup de sujets à voir avec vous, j'aimerais qu'on fasse un peu de pédagogie. Le parquet national financier, c'est combien de magistrats pour combien d'affaires traitées chaque année ?
Eh bien, Laurent Neumann, le parquet national financier, qui est un jeune parquet, puisqu'il a été créé en 2013, le parquet national financier, aujourd'hui, regroupe une cinquantaine de personnes. Et sur ces 50 personnes, on a une équipe qui est mixte, qui est vraiment composée de gens de statuts extrêmement divers. On a une vingtaine de magistrats, nous avons des assistants spécialisés, nous avons des attachés de justice, nous avons aussi des assistants de justice, des greffiers, bien sûr. Et l'objectif, en fait, a été de créer une équipe qui soit à la fois soudée, extrêmement professionnelle et en situation de s'intéresser aux dossiers les plus complexes.
Donc, pour une cinquantaine de personnes au total, pour combien de dossiers traités chaque année ?
Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 770 dossiers qui relèvent du parquet national financier.
Du coup, et c'est pour ça que je vous pose la question, du coup, une cinquantaine de personnes, 20 magistrats seulement, ça paraît très peu pour traiter autant de dossiers chaque année ?
Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'en répartition du nombre de dossiers par magistrat, nous avons un peu plus de 40 dossiers qui sont affectés à chaque magistrat du parquet national financier, avec une subtilité qui est que, comme le parquet national financier est très attaché au travail collectif, les magistrats fonctionnent en binôme. Et donc, ce qui fait qu'en plus de la quarantaine de dossiers qu'ils ont en propre, ils sont amenés à connaître la quarantaine de dossiers de l'autre membre du binôme.
D'un autre magistrat. On a une idée de la durée des jugements lorsque le parquet se saisit d'une affaire ?
Alors, la durée
ou
des...
au moins du traitement des enquêtes ?
Alors, le traitement des enquêtes, c'est extrêmement variable parce qu'on a des procédures qui peuvent être d'une telle complexité qu'elles vont s'étirer sur plusieurs années et de manière très significative, d'autres qui sont plus rapides. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu aussi des modes de réponse que le parquet national financier va décider de retenir pour faire face justement à la nécessité de gérer ces stocks de dossiers. Donc, c'est très compliqué de déterminer une durée précise parce qu'elle est encore une fois extrêmement variable. Par contre, ce que je peux vous indiquer, c'est que à partir du moment où le parquet national financier a choisi, par exemple, d'orienter ses procédures vers le tribunal correctionnel, les délais d'audiencement que nous avons, c'est-à-dire en attente du jugement après l'enquête, sont de l'ordre aujourd'hui d'une année.
J'ai vu que 85% environ des affaires dont se saisit le parquet national financier sont suivies en enquête préliminaire. Pour quelle raison un tel niveau, 85%, c'est pour décharger les juges d'instruction ?
C'est à la fois pour décharger les juges d'instruction, c'est surtout, je crois, d'abord parce que l'enquête préliminaire présente un certain nombre d'avantages, et notamment de pouvoir accélérer le traitement des procédures. Pour autant, on a besoin aussi de recourir à l'information judiciaire, donc la saisine de juge d'instruction, ce qui est donc le cas, vous l'avez rappelé, dans 15% des procédures, et on le réserve aux dossiers les plus complexes, les plus débattus.
Alors, il y a une façon de qualifier le travail du parquet national financier, c'est de regarder le taux de relax. On a une idée du taux de relax quand le parquet se saisit d'une affaire ?
Alors, vous savez qu'on distingue entre les relaxes totales et les relaxes partielles. Ce que nous constatons, notamment au regard de ce qui se fait au niveau national, et vous savez que nous avons des éléments qui nous sont indiqués, par exemple, par l'Agence française anticorruption, l'AFA, qui indique dans son dernier rapport que le taux de relax moyen sur les atteintes à la probité, on y reviendra, c'est un des types de contentieux que traite le parquet national financier.
C'est l'ADN du parquet national financier, il faut le dire.
Absolument, et le taux de relax national, en comptant les relax totales et partielles, est de 25% national. Pour le parquet national financier, le taux de relax total pour les atteintes à la probité, est en réalité de l'ordre de 10%. Donc on constate que nous avons des taux de relax qui sont
plutôt inférieurs à la moyenne de ce type de dossier.
Absolument, qui sont plutôt inférieurs. Et j'insiste sur un point, alors même que par définition, nous sommes confrontés aux dossiers, au parquet national financier, les plus complexes et les plus débattus.
Alors justement, c'est l'objet de ma question suivante. Lorsque Vanessa Perret est venue à ce micro, elle nous a expliqué concrètement quels étaient les critères pour se saisir lorsque le parquet national anti-criminalité organisée souhaite se saisir. Olivier Christen, pour l'antiterrorisme, a fait la même chose. Sur quels critères le parquet national financier se saisit d'une affaire? C'est plus compliqué. On imagine que vous n'allez pas traiter toutes les affaires financières, il y en aurait des milliers et des milliers, ce serait impossible. Donc, quels sont vos critères, précisément?
Les critères, en fait, sont différents en fonction des types de contentieux que nous traitons. Il y a un type de contentieux pour lequel le parquet national financier a une compétence exclusive. C'est le contentieux boursier. Donc, dans ce cas de figure, qui représente peu de dossiers, finalement, au sein du parquet national financier, mais sur lequel nous souhaitons continuer à monter en puissance, eh bien, sur ce type de dossier, effectivement, le parquet national financier est seul compétent. Mais pour les autres piliers, en fait, des compétences du parquet national financier, que sont les manquements à la probité, les atteintes aux finances publiques, les atteintes au droit de la concurrence, le parquet national financier a une compétence concurrente, donc avec l'ensemble des autres parquets du territoire national.
Et alors là, quels sont vos critères?
Et les critères sont ceux de la gravité des faits, de l'extrême sensibilité, du montant des préjudices qui sont constatés. Et donc, c'est une analyse au cas par cas qui est faite par le parquet national financier, en lien d'ailleurs, dans un certain nombre de situations, avec les autres parquets, pour déterminer si nous nous saisissons.
Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple d'actualité, c'est l'exemple de Jack Lang, à la faveur des 3 millions de documents qui ont été rendus publics par la justice américaine dans le cadre de l'affaire Epstein. Vous vous êtes saisi de l'affaire qu'on a qualifiée Lang. Le PNF a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée concernant Jack Lang et sa fille Caroline à propos d'une société offshore immatriculée aux îles Vierges, détenue à 50-50 entre Caroline Lang et Jeffrey Epstein. Mi-février, votre parquet a procédé à des perquisitions, notamment à l'Institut du Monde Arabe et au domicile de Jack Lang et de Caroline Lang. Pourquoi cette affaire-là en particulier? Parce qu'en fait, elle concerne une personnalité publique ou c'est pas du tout le critère?
Parce qu'il a paru qu'on avait effectivement une sensibilité extrêmement forte et que tout le monde a pu constater, notamment sur les Epstein Files, une sensibilité extrêmement forte qui nécessitait que le parquet national financier se saisisse. J'en dirai pas plus s'agissant d'une procédure en cours, mais je crois qu'il y a un point qui peut être intéressant à relever, notamment sur la manière dont travaille le parquet national financier au vu de cette procédure. C'est que le PNF se saisit aussi d'un certain nombre de procédures après un travail en source ouverte, c'est-à-dire sur la base, notamment, du travail qui est fait par les journalistes. Et donc, il fait une analyse, le PNF fait une analyse pour déterminer s'il ouvrira une enquête dans tel ou tel cas de figure, ce qui permet de compléter les autres types de saisines dont est rendu destinataire le parquet national financier, des dessaisissements d'autres parquets, par exemple, ou des plaintes qui lui sont directement adressées.
Mais est-ce que je dois comprendre que si cette affaire avait concerné quelqu'un de moins connu que Jack Lang, bah peut-être que le PNF aurait passé son tour?
Cela pouvait aussi dépendre du montant du préjudice constaté, mais là aussi, vraiment, l'objectif, c'est de rester à l'ADN du PNF. Vous l'avez dit très justement, le PNF n'a pas vocation à se saisir de toutes les affaires économiques et financières. Par contre, il a vocation à se saisir des affaires les plus sensibles et les plus complexes.
Alors, vous avez parlé des montants. Ça, c'est un sujet que le grand public ne connaît pas forcément. C'est quoi les sommes qui sont récupérées chaque année par le parquet national financier à la faveur de ces affaires?
Eh bien, c'est une question qui est véritablement intéressante parce que, si je puis me permettre, j'imagine bien que vous serez très attentif aussi à cette dimension d'efficacité du PNF, c'est de rappeler que le PNF, depuis sa création, a rapporté plus de 12 milliards à l'État. Si on cumule l'ensemble...
Donc, créé en 2013, donc ça fait une douzaine d'années, en 12 ans, 12 milliards, donc on n'est pas loin d'un milliard par an.
Absolument. Et avec en plus un point qui est extrêmement intéressant, c'est de constater que, et on en parlera au stade notamment de la justice négociée, sur ces 12 milliards, on a à la fois des montants qui correspondent aux condamnations qui ont pu être prononcées, mais aussi aux conventions judiciaires d'intérêt public. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais ces conventions judiciaires d'intérêt public, qui sont un outil qui est largement porté et de manière assez originale par le PNF, même si elles peuvent être utilisées par d'autres parquets, ont permis à elles seules de récupérer plus de 4,5 milliards d'euros. Et donc, on se trouve dans une situation où aujourd'hui, le PNF continue à avoir une action extrêmement résolue sur ce terrain-là. Depuis le début de l'année, d'autres CGIP ont pu ainsi être portées par le parquet national financier, dont une a plus de 260 millions.
Et c'est celle qui a concerné la banque HSBC, en l'occurrence. Alors, une convention judiciaire d'intérêt public, hein, c'est cela dont vous parlez. Il faut peut-être expliquer ce que c'est concrètement.
Une convention judiciaire d'intérêt public, en fait, c'est la résultante du constat qu'on peut avoir, soit à la suite d'une plainte, d'un signalement ou d'un travail en source ouverte, de la possible commission d'une infraction pénale. Et dans ce cas de figure, un travail d'enquête est mené et une discussion peut s'engager avec des personnes morales, puisque la CGIP est réservée aux personnes morales, de façon à pouvoir identifier si, notamment sur la base d'un travail collaboratif, on peut avancer sur l'éclaircissement d'un certain nombre de points.
Donc sans aller au procès, en réalité. C'est une sorte, pardon de le dire comme ça, d'accord à l'amiable. On se met d'accord sur la culpabilité, puis sur la peine qui va être infligée, ou l'amende.
Et c'est même plus intéressant que cela, parce que dans un certain nombre de cas, pour les CGIP, il y a un travail collaboratif dès le stade de l'enquête, qui est mise en œuvre avec la personne morale qui est susceptible d'être poursuivie et qui va faire le choix sur un bilan coût-avantage, soit de s'engager sur une voie de justice négociée avec le PNF en collaborant, soit au contraire d'avoir une position défensive, extrêmement défensive, qui potentiellement pourra la conduire devant le tribunal correctionnel.
Mais vous savez ce que disent certains, qu'au fond, ces conventions judiciaires d'intérêt public, c'est un moyen pour les dirigeants corrupteurs d'acheter au fond leur impunité, que ça crée une forme d'iniquité au profit des plus puissants. C'est vrai ou c'est faux, ces critiques ?
Ce serait oublier un point qui est d'abord essentiel, c'est que le PNF n'est pas là pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État.
C'est quand même ce qu'il fait. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, 12 milliards en 12 ans.
Mais il n'est pas là pour ça. L'objectif du parquet national financier, c'est d'assurer le respect de la loi, l'égalité des citoyens devant la loi et la défense du pacte républicain. Le moyen de recourir à la CGIP, ça n'est qu'un levier. Ça n'est qu'un levier pour permettre que la réponse pénale soit plus performante. Pourquoi ? Parce que la CGIP va nous permettre, dans un certain nombre de cas de figure, dès lors notamment, pas uniquement, mais dès lors que l'on est confronté à des interlocuteurs qui sont de bonne foi, et qui, dans un certain nombre de cas d'ailleurs, ont fait de l'auto-révélation, c'est un levier qui va nous permettre d'accélérer le traitement des enquêtes et d'obtenir des décisions ainsi qui seront plus rapides dans leur prononcé et qui libéreront du temps d'enquête pour les enquêteurs, pour le PNF, pour pouvoir traiter d'autres dossiers.
Et qui éviteront aussi d'engorger les tribunaux, pour le coup.
Absolument. Donc c'est un enjeu aussi d'efficacité de la réponse judiciaire. Je crois que l'ensemble de nos concitoyens y sont attachés.
J'ai regardé depuis 2017, je ne suis pas remonté avant, mais depuis 2017, 26 ministres ont été épinglés par la justice financière, par le PNF. Est-ce que je dois y voir un signe de l'indépendance du parquet national financier ou au contraire une augmentation inquiétante du phénomène corruptif ?
Je pense qu'il faut rapporter ces chiffres que vous évoquez à la totalité de l'activité du PNF. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous avons plus de 770 procédures aujourd'hui
par an
en cours au PNF. Donc, on ne peut absolument pas considérer que le traitement de situations de ce type correspond à la majorité des affaires traitées par le PNF.
Donc, ceux qui disent que le PNF a en ligne de mire les responsables politiques se trompent en réalité. Il suffit de regarder les chiffres.
Il suffit de regarder les chiffres, vous l'avez dit.
Le PNF œuvre aussi beaucoup à l'international. J'ai regardé, il y a un dossier sur trois, je crois, qui donne lieu à une demande d'entraide pénale internationale. On est entre nous aujourd'hui. J'imagine que tous les pays ne doivent pas jouer le jeu à égalité. Ça doit être plus facile de demander une entraide à un pays comme la Grande-Bretagne plutôt qu'à certains autres, j'imagine.
Il est évident que la situation aussi géopolitique globale ne facilite pas les mesures d'entraide dans un certain nombre de cas de figure. Nous, ce qu'on constate, c'est que nous avons d'excellents échanges, effectivement, avec les pays européens notamment, avec les États-Unis. Ça va même au-delà, puisque nous avons mis en place une task force avec le Royaume-Uni et la Suisse l'année dernière, et qui a vocation à faciliter justement les échanges d'informations.
C'est intéressant, parce que vous citez deux pays qui ne sont pas dans l'Union européenne.
Absolument. Et nous avons aussi la possibilité de nous appuyer sur une autre structure qui est Eurojust, qui facilite les échanges avec d'autres pays. Donc, l'entraide est aussi consubstantielle à l'activité du PNF.
Et elle marche dans les deux sens ? C'est-à-dire qu'on fait appel aussi au parquet Bien national sûr. Financier, des justices étrangères, européennes ou autres, font appel à vous pour échanger des informations ?
C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les demandes d'entraide entrantes, et qui correspondent aussi à une activité significative pour le PNF.
Vanessa Perret, je disais qu'elle était venue à ce micro-là avant vous, la procureure du parquet national anti-criminalité organisée. Elle nous a dit à ce micro qu'elle allait être amenée à travailler avec vous, avec le PNF, de concert sur certains dossiers liés à la criminalité organisée, à la lutte contre le narcotrafic. Il se trouve que quelques heures, quelques jours avant de vous recevoir, 42 personnes liées à la DZ Mafia dans les Bouches-du-Rhône ont été arrêtées pour trafic de drogue, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé. Est-ce que sur cette affaire-là, mais on pourra en prendre d'autres, vous pourriez être amené à travailler en collaboration avec le PNACO, le parquet anti-criminalité organisée ?
Ce qui est certain, c'est qu'il est impératif que les parquets spécialisés, et notamment le PNACO et le PNF, travaillent ensemble, et c'est évidemment l'objectif. D'ailleurs, nous avons des réunions qui sont très régulières, institutionnalisées, de façon à faire le point sur les dossiers qui sont en cours et s'assurer d'une répartition la plus fine possible au regard de nos compétences, en fait, propres. Le PNF a des compétences extrêmement développées dans un certain nombre de sujets, le PNACO sur d'autres. L'objectif, c'est évidemment d'avancer ensemble, parce que, en réalité, quel est le challenge ? Le challenge, c'est que l'institution judiciaire soit au rendez-vous des défis qui lui sont adressés par la grande délinquance, que ce soit la criminalité organisée ou la grande délinquance économique et financière, et on sait qu'il y a des passerelles entre les deux.
Encore un dernier mot de pédagogie avant de passer à des sujets d'actualité. Quand vous avez pris vos fonctions, vous avez insisté sur l'importance pour les parquetiers, et notamment pour le parquet national financier, de faire justement cette pédagogie, ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Est-ce que ça veut dire que vous, Pascal Prache, on va vous voir beaucoup plus qu'auparavant, peut-être sur les plateaux de télévision, pour aller faire la pédagogie affaire après affaire du travail que vous menez en tant que procureur ?
Je crois que nous avons un sujet essentiel qui n'est pas propre à l'institution judiciaire, mais auquel l'institution judiciaire est particulièrement confrontée, c'est un sujet de confiance de nos concitoyens dans les institutions. Et si nous sommes en situation d'expliquer régulièrement comment nous travaillons, ce pourquoi nous travaillons, eh bien, je pense que c'est de nature à recréer ce lien de confiance avec nos concitoyens.
Mais elle se fait comment, cette pédagogie ? Bon, elle se fait là, aujourd'hui, vous venez au micro de Quid Juris, mais comment elle peut se faire au long cours, tout au long de l'année, affaire après affaire ?
Précisément aussi en se dégageant des affaires. C'est-à-dire qu'il faut, à côté d'une communication événementielle, avoir une communication institutionnelle pour redire, répéter et avancer sur un certain nombre de points pour expliquer encore une fois quelles sont nos méthodes de travail et ce que nous faisons.
Donc ça, c'est la pédagogie. Maintenant, on va rentrer dans le dur, si j'ose dire. Il y a, pour le PNF, je le disais, toute une série d'affaires politiquement très sensibles. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Pascal Prache, le procureur du parquet national financier.
Pascal Prache, il y a à partir du 16 mars et jusqu'au 3 juin le procès en appel de Nicolas Sarkozy. Il y a en appel, on attend l'arrêt le 7 juillet prochain dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du Front National et du Rassemblement National, donc la décision concernant Marine Le Pen. Il y a le procès de Rachida Dati le 16 septembre prochain. Il y a aussi une plainte en cours contre Jordan Bardella. On va prendre chacun de ces dossiers à part un, mais d'abord, j'aurais vous poser une question préalable. À la faveur de toutes ces affaires politico-médiatiques. On sait que le parquet national financier est très observé, parfois il est très critiqué. Comment on fait pour rendre une justice sereine avec une telle pression, pas seulement médiatique, mais une vraie pression politique de la part de responsables politiques ?
Mais je crois que ça renvoie aussi à un point fondamental, qui est celui des attentes de l'ensemble de nos concitoyens, et quels qu'ils soient, vis-à-vis de la capacité de l'institution judiciaire à rendre une justice qui soit sereine, qui soit professionnelle, qui soit empreinte d'humanité, et qui permette aussi de démontrer que les magistrats sont avant tout attachés aux principes d'indépendance et d'impartialité. Donc, ce à quoi nous sommes confrontés au parquet national financier, c'est évidemment une situation qui, médiatiquement, est beaucoup plus exposée que dans un certain nombre d'autres cas de figure. Mais ça fait partie aussi de la règle du jeu, naturellement, parce qu'un certain nombre de personnalités, de personnes qui sont mises en cause dans le cadre de procédures qui sont portées par le PNF, ont une capacité, évidemment, d'expression qui est supérieure à d'autres justiciables.
Vous voulez dire que certains, quand ils n'ont pas réussi à convaincre les juges, essayent de prendre l'opinion publique à témoin, et du coup, bah, par ricochet, ça met les juges en porte-à-faux?
Non, j'ai pas dit ça, mais ce que je retiens, et c'est d'ailleurs tout à fait cohérent, c'est que ils ont une capacité, pour un certain nombre d'entre eux, des justiciables qui sont suivis par le parquet national financier, ils ont une capacité d'expression médiatique qui n'a rien à voir avec celle que l'on peut rencontrer dans d'autres dossiers. Et donc, mécaniquement, et c'est normal, ça fait partie du jeu, mécaniquement, eh bien, il y a des interrogations qui sont adressées au parquet national financier, et il nous appartient, dans le cadre de la manière dont nous travaillons et dans le cadre de la manière dont nous nous exprimons, dont nous communiquons, de rassurer les uns et les autres sur, encore une fois, ces principes qui sont essentiels, qui sont les principes d'indépendance, d'impartialité, de professionnalisme et de détermination à faire en sorte que la loi puisse être appliquée.
Alors, il se trouve, alors là, pour le coup, c'est vraiment l'actualité. Quelques heures avant de vous recevoir à ce micro, le tribunal judiciaire de Paris a refusé lundi la demande de confusion des peines réclamée par Nicolas Sarkozy, qui a été condamné 2 fois définitivement, 6 mois ferme aménageable sous bracelet électronique pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Big Malion, puis à 1 an ferme aménageable aussi sous bracelet électronique pour corruption, cette fois, c'est l'affaire qu'on a appelée l'affaire des écoutes ou l'affaire Bismuth. La confusion des peines a donc été refusée. Est-ce que ça veut dire... D'abord, est-ce qu'on sait pourquoi? Sur quels critères? Parce que visiblement, ça n'a pas été rendu public. C'est normal, ça, qu'on ne sache pas pourquoi cette confusion des peines a été refusée?
C'est tout à fait normal que ça n'ait pas été rendu public, parce qu'il s'agit d'une procédure qui donne lieu, en fait, à des débats et une décision rendue en chambre du Conseil. Et la caractéristique de la Chambre du Conseil, précisément, c'est que les décisions et les débats ne sont pas publics.
Donc les avocats de Nicolas Sarkozy, eux, connaissent la motivation, mais le grand public, lui, ne la connaît pas. Ça peut paraître bizarre.
C'est la loi. La décision sera notifiée à l'ensemble des parties, mais encore une fois, et c'est la loi qui le prévoit, les décisions sont rendues après un débat en Chambre du Conseil et sont rendues elles-mêmes en Chambre du Conseil. Donc il n'est pas possible de communiquer.
Alors on ne sait pas, à l'heure où on se parle, si les avocats de Nicolas Sarkozy vont faire le choix d'interjeter appel de cette décision. Est-ce que pour autant, ça veut dire que le procès de Nicolas Sarkozy commençant le lundi 16 mars, il devra se présenter devant ses juges avec un bracelet électronique?
Ça, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas à me prononcer aujourd'hui. Mais encore une fois, je crois qu'il faut insister sur ce point. La décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris sur la demande de confusion, étant rendue dans le cadre d'une instance en chambre du Conseil, il n'est pas possible de communiquer.
Alors, il faut dire qu'il peut faire appel, évidemment. Il peut aussi demander une libération conditionnelle en raison de son âge. Nicolas Sarkozy a 71 ans. Et puis, de toute façon, mais j'imagine que vous allez me le confirmer, même s'il devait porter ce bracelet, la pose d'un bracelet électronique prend, j'imagine, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, s'il devait le porter, ce sera dans le courant de son procès, peut-être pas au début, mais en tout cas dans quelques semaines.
Je n'ai pas d'éléments à vous communiquer là-dessus, s'agissant de surcroît d'une compétence qui relèvera d'un magistrat spécialisé.
Alors, en revanche, là où j'ai besoin de vos lumières, c'est sur la décision qui a été rendue en première instance dans cette affaire, puisque dans l'affaire du financement présumé par la Libye de sa campagne de 2007, le tribunal correctionnel a condamné Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. Alors, j'imagine que vous ne commenterez pas cette décision, mais il se trouve qu'il y a un procès en appel qui va commencer. Comment vous abordez cette deuxième manche, si j'ose dire? Il y a eu le procès, je crois que le parquet avait demandé 7 ans, finalement il a été condamné à 5 ans. Comment le parquet national financier aborde cette deuxième partie de cette affaire?
Le parquet national financier, en réalité, ne l'aborde pas, puisque désormais, effectivement, c'est du ressort de la Cour d'appel et donc du parquet général. La Cour d'appel, et c'est le parquet général qui portera la parole du ministère public à l'occasion de ce procès. Donc, pour le parquet national financier...
Donc, c'était le PNF en première instance.
Absolument.
Mais pour ce deuxième procès en appel, ce sera le parquet général.
Absolument.
D'accord. Mais vous n'allez pas me répondre à la place du parquet général, du coup. Mais j'imagine que le procureur, pour ce procès en appel, va forcément tenir compte du procès en première instance, du jugement. Or, si ma mémoire est bonne, le parquet avait réclamé 7 ans. Il y a toute une série d'infractions qui n'ont pas été retenues. Je pense à l'infraction de corruption, de recel de détournement de fonds publics libyens, de financement illégal de campagne. Quand on est le parquet, on est obligé de tenir compte de la décision qui a été rendue en première instance pour requérir à nouveau en appel.
Je ne doute pas que vous poserez la question au parquet général.
D'accord, mais vous me confirmez qu'un parquetier tient compte de la décision de première instance, forcément.
De toute façon, naturellement, les uns et les autres l'auront présent à l'esprit, quel qu'il soit. Mais je ne peux pas m'exprimer sur le positionnement qui sera celui du parquet général, qui relève d'une autre juridiction que celle que le PNF.
La conclusion qu'on peut au moins tirer de ce procès en première instance, c'est que puisque certaines infractions n'ont pas été retenues par le tribunal, c'est que le contradictoire a été respecté, que la défense a été entendue et que le procès a été mené à charge et à décharge. Et du coup, ça démine un peu toutes les critiques qu'on a entendues contre la justice à l'issue de ce jugement.
Comme vous l'avez dit, le débat a été public, le principe du contradictoire a été largement porté et bien évidemment, il en ira de même devant la juridiction d'appel.
Votre prédécesseur, Jean-François Bonnert, disait qu'à ses yeux, le parquet national financier sortait plutôt renforcé, ce sont ces termes, je les mets entre guillemets, du procès Sarkozy. Il a raison, vous avez eu ce sentiment-là à la lecture du jugement, de dire finalement, le parquet a fait du bon boulot.
Je crois vraiment que ce qui renforce le parquet national financier, c'est au-delà de ces procès qui sont les plus médiatisés, c'est son activité quotidienne. Quelques jours à peine après mon arrivée au parquet national financier, on signait une CGIP, nous l'évoquions tout à l'heure,
avec convention judiciaire d'intérêt public.
Voilà, 267 millions d'euros. Hier, le parquet national financier est monté sur des CRPC avec des montants d'amende de plus d'1 million d'euros.
CRPC ?
C'est qui sont les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce que je veux dire, c'est que le parquet national financier qui a fait juger l'année dernière plus de 90 personnes à l'occasion de divers dossiers et par ailleurs plus de 30 personnes en CRPC, quotidiennement est au contact bien sûr des enquêteurs, au contact des avocats et bien sûr porte les dossiers devant la juridiction correctionnelle. Et je crois que c'est cette activité constante et cette augmentation par ailleurs du nombre de dossiers qui lui sont confiés, nous l'évoquions tout à l'heure, plus de 700 dossiers, ce qui signifie d'ailleurs qu'en l'espace de quelques années, le nombre de dossiers qui lui sont confiés a été multiplié par 3. C'est cette action quotidienne, et parfois d'ailleurs, et même souvent peu connue ou méconnue, c'est cette action quotidienne qui renforce la crédibilité du parquet national financier.
Pascal Prache, il y a un invariant structurel. À chaque fois qu'un responsable politique se retrouve devant un tribunal, devant une cour d'appel, à chaque fois qu'il est face à la justice et que le jugement ou l'arrêt est rendu, on entend des élus critiquer la justice, critiquer les juges, on parle de justice politique. On a même entendu, par exemple, à l'occasion du procès Le Pen, des élus du Rassemblement National parler de coup d'État judiciaire, de dictature judiciaire. Comment on fait pour travailler sereinement dans ces conditions-là? Et j'allais presque vous dire, puisque ça concerne là le Rassemblement National, est-ce que les échéances électorales, la perspective d'une élection présidentielle rendent votre mission, j'allais dire, encore plus compliquée, délicate, difficile à mener?
Le premier point, c'est quand même de redire que j'ai quand même rarement constaté qu'un prévenu à une audience correctionnelle était ravi d'être présent dans la salle d'audience. Donc, les critiques qui sont adressées à l'institution judiciaire par les prévenus sont monnaie courante et simplement, certaines sont plus médiatisées que d'autres. Donc, je crois que c'est le premier point qu'il faut quand même rappeler. Au-delà d'un bruit de fond qui serait celui d'une critique de l'institution judiciaire en général et du PNF en particulier, je crois qu'il faut quand même rappeler ce point de départ. Le deuxième sujet, et là, vous avez raison, c'est que le contexte potentiellement électoral, à certains moments, le contexte médiatique plus globalement, est de nature à compliquer la tâche et de l'institution judiciaire. Mais cela fait aussi partie des règles du jeu, dans le sens que, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons un certain nombre d'acteurs qui ont une surface médiatique qui est significative.
Et donc,
ils choisissent de s'exprimer, et c'est leur droit.
Mais pardon de vous interrompre, mais est-ce qu'il y a, comme certains le disent, en France, des juges politisés, et donc potentiellement des décisions de justice à caractère politique qui sont rendues dans ce pays? C'est ça la critique fondamentale que l'on entend.
La critique fondamentale que l'on entend dans la bouche de certains, mais je ne suis pas certain que, par ailleurs, l'ensemble de nos concitoyens partagent cette analyse. Ce que je constate, encore une fois, et ne serait-ce que par le biais des fonctions que j'ai exercées précédemment en administration centrale comme directeur d'un service judiciaire, vous l'évoquiez tout à l'heure, où nous sommes amenés régulièrement à travailler sur des questions déontologiques. Le sujet quand même que j'ai pu constater, c'est quand même la forte imprégnation chez les magistrats des principes d'indépendance, d'impartialité que j'évoquais, qui sont des sujets absolument essentiels et qui font de la légitimité aussi de l'action du juge. Donc je crois qu'il faut en permanence le rappeler, et rappeler aussi que les critiques qui peuvent être adressées à une décision peuvent s'entendre naturellement, et il y a des voies de droit. Nous sommes dans un état de droit, il y a des voies de droit qui sont d'ailleurs largement utilisées, et il y a des débats contradictoires qui permettent aux uns et aux autres de porter leur
position. Ce que vous dites, c'est qu'on peut critiquer une décision de justice, mais en revanche, on n'a pas le droit de critiquer les juges.
Je crois que ce qui est extrêmement important de rappeler, au-delà simplement de l'inquiétude qui peut être générée par tel ou tel comportement, c'est de rappeler que lorsqu'on critique un juge ou lorsqu'on critique par principe l'institution judiciaire, je dis bien par principe, on attente aux principes fondamentaux de l'État républicain. Et on fragilise l'ensemble de la structure.
Parce que vous avez commencé votre réponse en me disant « Bah, moi, je connais pas de prévenus qui sont contents d'être dans un tribunal ou devant une cour d'appel, et a fortiori quand ils sont condamnés. » Mais moi, j'ai entendu des responsables politiques qui n'ont pas eu maille à partir avec la justice. Hein, Laurent Wauquiez qui parle de coup d'état de droit des cours suprêmes. Bruno Retailleau qui dit que l'état de droit, c'est pas intangible, c'est pas sacré. Ça ressemble étrangement à ce qui se passe outre-Atlantique avec Donald Trump et la justice. On est sur cette pente-là, vous le sentez comme ça en France ?
Je crois qu'il faut distinguer les réflexions, les réactions qui sont normales dans une démocratie sur l'évolution de tel ou tel texte, sur la nécessité de faire évoluer la loi, dans quel que soit le sens, et qui font partie du débat public. Il faut distinguer ce débat du respect qui doit être porté aux institutions. On ne peut pas à la fois critiquer l'institution judiciaire par principe et à côté demander à l'ensemble de nos concitoyens de respecter les institutions et celles et ceux qui les incarnent.
Donc quand certains disent les juges ont voulu se payer Sarkozy, quand d'autres disent les juges veulent empêcher Marine Le Pen d'être candidate en 2027, vous leur répondez quoi ? Qu'au fond leur problème ce ne sont pas les juges, c'est peut-être la loi ?
Je réponds surtout qu'on peut débattre de tout, mais qu'il faut toujours garder présent à l'esprit les conséquences sur la solidité du pacte républicain et nos institutions, dès lors que l'on s'en prend aux juges en général, mais après à l'ensemble d'ailleurs des acteurs de la chaîne judiciaire, quels qu'ils soient.
Encore un mot avant de passer à d'autres affaires. La présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy en première instance, elle a été placée sous protection policière parce qu'elle a été menacée de mort sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a, selon vous, un continuum entre les attaques d'une partie de la classe politique contre la justice, contre les juges, contre l'institution, et ces menaces qui pourraient être de nature à favoriser le passage à l'acte? Il y a un lien entre les deux ?
Je pense qu'il faut faire attention à ce que des attaques décomplexées vis-à-vis de tel ou tel, effectivement, ne produisent pas des effets délétères, et à l'encontre des juges, comme on l'a vu d'ailleurs par rapport à d'autres catégories d'agents, quand on voit aussi la manière dont les représentants de l'autorité peuvent être pris à partie, par principe, violemment, et même dans un certain nombre de cas des élus, je crois qu'il est important de rappeler encore une fois que des lignes jaunes ne doivent pas être franchies.
Alors, il y a une autre affaire qui fait évidemment beaucoup causer, c'est le procès de Rachida Dati et de Carlos Ghosn, qui aura lieu le 16 septembre prochain, donc 2026. Le PNF a rendu son réquisitoire après plus de 5 ans d'enquête contre la ministre de la Culture et contre l'ancien PDG de Renault-Nissan. Un document d'une centaine de pages dans lequel le PNF a demandé le renvoi de Rachida Dati pour, je cite, « recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, corruption et trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale ». Et au cœur de votre réquisitoire, le PNF écrit ceci, qu'au fond, il y a une convention d'honoraires pour 300 000 euros qui serait l'habillage juridique par lequel le pacte corruptif entre Carlos Ghosn et Rachida Dati a été dissimulé, par lequel les versements faits en exécution de ce pacte ont été justifiés aux yeux des tiers. Le procès n'a pas commencé, mais ce réquisitoire, dans les mots, il est absolument terrible.
Je ne commenterai pas ce réquisitoire et je ne ferai pas le procès avant le procès. Donc je m'exprimerai pas sur ce dossier en l'état.
Alors, je comprends que vous ne puissiez pas vous exprimer, encore moins que vous me disiez ce que le parquet va finalement requérir au moment du procès. Mais en revanche, là où j'ai besoin de votre éclairage et votre commentaire, c'est à propos de ce qu'a Rachida Dati a dit elle-même. Elle a dénoncé une procédure émaillée d'incidents. Elle dit que les magistrats marchent sur les droits de la défense. Si on raisonne à froid, on se dit que c'est quand même assez choquant qu'une ministre en exercice, mais surtout une ancienne ministre de la Justice, puisse à ce point attaquer les juges sans rentrer dans le cœur de l'affaire, et ça nous relie aux questions précédentes sur l'affaire Sarkozy-Le Pen, sur toutes ces déclarations. Est-ce que c'est choquant d'entendre des propos comme ça de la part d'une ancienne ministre de la Justice ?
Encore une fois, s'agissant d'un procès qui se tiendra dans quelques mois, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut simplement redire ce que j'évoquais d'une manière générale, en déconnectant de tel ou tel dossier. Je crois qu'il faut redire tout l'intérêt et l'importance qui doit être portée à la préservation du pacte républicain. Et cette préservation du pacte républicain, elle passe par le respect qui doit être porté à l'institution judiciaire. Il ne s'agit pas de défendre par principe tel ou tel juge ou tel parquetier. C'est pas ça le sujet.
Mais ça veut dire clairement qu'au poste que vous occupez, quand tout à coup un responsable politique prévenu, en l'occurrence, attaque les juges, attaque l'institution, bah par définition, vous ne pouvez pas répondre.
Le sujet, c'est surtout de rappeler à l'ensemble des acteurs tout l'intérêt qu'il y a à défendre le pacte républicain et ça passe par la défense de l'institution judiciaire.
Il y a une dernière affaire que je voudrais voir avec vous, c'est l'affaire, d'ailleurs je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, Bardella, parce que mi-janvier, vous avez déclaré être en train d'analyser la plainte de l'association AC Corruption visant une formation de média training suivie par Jordan Bardella. L'association a déposé plainte contre X en décembre pour favoritisme et détournement de fonds. Elle en est où l'analyse de cette plainte ? Est-ce que vous allez ouvrir une information judiciaire, transmettre ce dossier ? On en est où ?
Comme cela avait été indiqué, le parquet européen a été saisi de cette procédure et en cours d'analyse.
Donc ça n'est plus entre les mains du parquet national financier. Pourquoi d'ailleurs le transmettre au parquet européen ? Pourquoi c'est de sa compétence en l'occurrence ?
Absolument, c'est susceptible d'être de sa compétence au regard notamment des éventuelles atteintes aux intérêts de l'UE.
J'ai encore une question à vous poser. Vous avez sans doute entendu un certain nombre de responsables politiques s'interroger sur l'utilité du parquet national financier. On est à un peu plus d'un an d'une élection présidentielle. Certains vont présenter leur candidature, certains vont déposer un programme. Et certains, parmi eux et parmi les plus importants, voudraient voir disparaître le parquet national financier. D'abord, est-ce que ça vous inquiète ? Et pourquoi il faut absolument, à vos yeux, que ce parquet national financier perdure et continue à faire son travail ?
Alors déjà, en point de départ, je ne suis pas du tout certain que cette position soit une position majoritaire. Je ne l'ai pas d'ailleurs régulièrement entendue. Je l'ai parfois entendue, mais parfois. Le deuxième point, c'est de redire que la création du PNF était sans doute aussi un signe de maturité démocratique. Je l'ai souvent exprimé et je suis convaincu que c'est aussi une manière de réassurer nos concitoyens sur la capacité de l'institution judiciaire et donc de l'État à faire respecter les principes d'égalité des citoyens devant la loi.
Mais moi, je me souviens, pardon, pour aller dans votre sens, je me souviens que au moment où ce parquet a été créé, 2013, au moment où la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a été créée, il y avait une demande ultra majoritaire dans l'opinion, disant il faut exiger une probité absolue de la part de nos responsables publics. D'ailleurs, pas seulement les élus, mais au-delà des élus. C'était la fameuse affaire Cahuzac, tout le monde s'en souvient. Vous pensez que l'opinion publique est toujours sur cette ligne-là, qu'il faut demander de la rigueur, de la probité aux élus ?
Je pense que c'est, si on veut là aussi retisser le lien de confiance dans notre société avec les décideurs publics, avec les élus, avec les représentants de l'État, avec l'institution judiciaire, je pense qu'effectivement, le PNF a vocation à y concourir. Le PP, non seulement il a vocation, mais il y concourt. Et je crois d'ailleurs qu'il faut aussi rappeler que si, par extraordinaire, demain, la question de l'existence du PNF se posait, ça ne ferait pas disparaître les dossiers, ça ne ferait pas disparaître les infractions, et il faudrait de toute façon qu'un juge ou qu'un parquetier ait à en connaître.
Encore une dernière question, mais elle est liée à la précédente. Certains voudraient revoir le code pénal, certains voudraient désengorger les prisons qui sont en surpopulation chronique. Je crois qu'on est à près de plus de 86 000 prisonniers au dernier chiffre du mois de février. Et certains s'interrogent sur l'utilité d'envoyer en prison ce qu'on pourrait appeler des délinquants en col blanc, et dont notamment des élus. Est-ce que ce serait une bonne idée de dire, au fond, c'est les atteintes aux biens et aux personnes qui doivent susciter la prison, et les autres, la délinquance en col blanc, il vaudrait mieux les laisser dehors?
Je pense que c'est un sujet avant tout politique, au sens noble du terme, qui doit relever de la représentation nationale et du pouvoir exécutif. Mais je crois qu'il faut quand même être très vigilant, encore une fois, sur le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Si on veut que la loi soit bien comprise et acceptée par nos concitoyens, je crois que ce principe d'égalité des citoyens devant la loi est absolument essentiel.
Et donc les élus ne sont pas en dessous des lois, pour reprendre une phrase célèbre, mais ils sont pas au-dessus des lois ou en dessous des lois, ils doivent être traités comme n'importe quel justiciable, c'est ça l'idée?
Comme des justiciables à part entière, avec leurs droits et leurs devoirs.
Merci infiniment, Pascal Prache, d'être venu nous voir dans Quid Juris. Quid Juris, c'est fini pour cette semaine. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 101e numéro de Quid Juris que vous pouvez désormais écouter et voir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.
Merci, Laurent Demane.